Bom dia a todos. Continuamos com as emissões políticas na Rádio Alfa sobre as eleições regionais e departamentais francesas, segunda volta no próximo domingo. Jeanline avec moi, Madame Valérie Pécresse, candidate avec la liste libre et républicain, président actuel de la région d'Île-de-France. Bonjour, Madame Pécresse.
Bonjour.
Nous sommes dans le dernier jour de la campagne. Vous allez gagner le deuxième tour?
Eh bien, écoutez, il faut rester très mobilisé. Vous savez, avec le mode de scrutin pour les régionales, c'est un faux match à quatre, parce que c'est celui qui va arriver le premier ou la première qui va devenir présidente de région. Et ça va être très serré, parce que beaucoup de Franciliens ne sont pas allés voter dimanche dernier, et donc le résultat est très incertain. Or, il y a vraiment deux projets qui s'opposent, celui de Monsieur Julien Bayou et le mien.
Donc vous appelez au vote, c'est ça surtout que vous faites là. Vous n'êtes pas sûr de gagner pour un prochain mandat.
Absolument, je suis déterminée parce que la liste qui est en face de moi est une liste qui rassemble une gauche radicale, une gauche extrême qui est alliée avec Monsieur Mélenchon et qui aujourd'hui prône des idées qui sont le contraire des miennes. Elle prône la décroissance. Monsieur Bayou s'est prononcé contre le redémarrage de l'activité touristique en Île-de-France. Alors qu'il y a tant de restaurateurs, il y a tant d'hôteliers qui sont aujourd'hui dans une situation dramatique. Monsieur Bayou s'est prononcé aussi contre toutes les aides à l'industrie automobile. Il veut fermer les aéroports, donc il veut la décroissance économique. Et puis surtout, ils acceptent des entorses à la République. Vous savez, la République française, c'est la sécurité, c'est la laïcité. Ça, c'est mon projet. Or, Monsieur Bayou, lui, il a voté contre le bouclier de sécurité que j'ai mis en place en 2016. Il a voté contre la vidéoprotection, contre les polices municipales armées. Et il a voté contre la charte de la laïcité qui me permet de ne pas donner un euro d'argent de la région aux associations qui ne respectent pas les valeurs de la République et la laïcité. On a retrouvé Monsieur Bayou. Les amis de Monsieur Bayou, les amis de Monsieur Mélenchon, dans une manifestation du CCIF, du Comité contre l'islamophobie en France, qui a été dissous parce qu'il a joué un rôle dans l'assassinat du professeur Samuel Paty. Et Monsieur Bayou défend les réunions racisées, et Madame Pulvar demande même aux Blancs de se taire. Donc ce ne sont pas du tout mes valeurs, ce ne sont pas les valeurs de la République.
Madame Pécresse, ce que vous me dites me surprend un peu parce que tous les analystes et les sondages disent que vous allez gagner au deuxième tour.
Écoutez, il ne faut pas lire les sondages et il ne faut pas les regarder. C'est parce que les Franciliens ont lu les sondages et qu'ils les ont regardés que dimanche dernier, ils ne sont pas allés voter. Donc, le sujet aujourd'hui, et je le dis aux Franciliens luso-descendants, c'est de prendre votre destin en main. La région, elle est très importante. Elle est importante dans le quotidien. Vous l'avez vu pendant la crise Covid avec les masques qu'elle a apportés partout, avec les tests. Aujourd'hui, c'est les vaccins qu'elle va amener partout, y compris dans les villes, les quartiers populaires et les territoires ruraux. Vous avez vu aussi la région pendant les grèves, puisque c'est elle qui a obtenu le remboursement du pass Navigo. Et aujourd'hui, vous la voyez dans les inondations. J'étais à Alfortville, j'étais à Saint-Maur, j'étais dans le Val-de-Marne il y a quelques jours pour amener les secours de la région, parce que face au dérèglement climatique et aux inondations, le Val-de-Marne a besoin que la région soit près d'elle, près de lui.
Croyez-vous qu'il y aura une abstention gigantesque comme celle du premier tour?
J'espère que non, parce que c'est vraiment un choix de société entre la gauche extrême et la liste que je représente. Moi, j'ai fait le choix de la sécurité. J'ai, dès mon élection, vous savez, j'ai été élue au lendemain des attentats du Bataclan, à un moment où l'Île-de-France avait été terriblement frappée par le terrorisme islamiste. J'ai été élue au lendemain des attentats du Bataclan. Et donc, j'ai pris le sujet de la sécurité à bras-le-corps. La sécurité, c'est un immense sujet pour les Franciliens. Et donc, j'ai signé avec le ministère de l'Intérieur de l'époque, M. Cazeneuve, un bouclier de sécurité qui me permet de financer la vidéoprotection, la police des transports. J'ai mis des brigades de sécurité dans les lycées d'Île-de-France, où il y avait, vous savez,
oui,
des
j'ai
rixes
vu votre
de bancs.
À ce sujet, ouais.
Et bien, tout ça, la gauche a voté contre, M. Bayou, M. Bardella du Front National a voté contre aussi. Pourquoi M. Bardella, le Front National, a voté contre? Il a voté contre parce que le Front National se nourrit des problèmes. Mais quand il y a une présidente qui arrive avec des solutions, eh bien, ça le dérange. Ça le dérange parce que il n'y a plus de problème, il n'y a plus de Rassemblement National. Et donc, moi, j'appelle aujourd'hui au vote utile. Vous savez, LREM, le parti du président de la République, a décidé de maintenir sa liste. On ne peut pas dire qu'on fait barrage aux extrêmes et maintenir une liste quand il y a une liste de la gauche extrême. Ça, ça n'est pas compréhensible, c'est une faute politique.
Que dites-vous à nos auditeurs qui sont pour la plupart d'origine portugaise pour les inciter à aller voter et voter pour vous?
Eh bien, je leur dis que dans ma région, tous les Franciliens sont considérés avec une égale dignité. Moi, je veux que l'Île-de-France soit une région monde. Mais je veux aussi que ce soit une région de l'intégration réussie. Parce que l'intégration ratée, ça mène à la délinquance et parfois même à la radicalisation islamiste. Alors, l'intégration réussie, c'est quoi? Eh bien, c'est pouvoir continuer à apprendre la langue de ses parents. Vous savez peut-être, mais la région a fait une application qui s'appelle Kioz, Q-I-O-Z, Kioz, qu'elle a mis sur tous les ordinateurs qu'elle a distribués gratuitement aux lycéens. Et dans cette application Kioz, on peut apprendre le portugais. On peut apprendre le portugais débutant, mais on peut apprendre aussi le portugais pour aller faire des études au Portugal. Parce que je pense que la lusophonie est quelque chose de très précieux pour l'Île-de-France. Moi, je veux une Île-de-France qui rayonne. Je veux une Île-de-France qui commerce avec le monde entier. Je veux une Île-de-France qui soit l'une des premières régions d'Europe. Et dans cette région, mais il faut parler le portugais. Et jusqu'à présent, vous le savez, le portugais, pour le parler, il fallait soit aller dans un lycée international, soit parfois aller dans l'enseignement privé, parce que bah, on peut pas l'apprendre dans les lycées publics. Avec Kioz, on peut l'apprendre.
C'est pas
on peut l'apprendre chez soi et on peut l'apprendre à ses enfants. On peut transmettre son patrimoine linguistique. Et puis, ce que je dis aussi, c'est que j'ai œuvré pour la liberté de choix des parents. Vous le savez peut-être, mais l'équipe de Julien Bayou, qui gouvernait la région avant moi, avait supprimé toutes les aides à l'enseignement privé. Moi, j'ai rétabli ces aides parce que je veux que les familles, quels que soient les moyens financiers des parents, puissent avoir le libre choix de l'école de leurs enfants. Et s'ils veulent les mettre dans l'école privée, qu'ils puissent le faire. Eux, ils sont contre ces aides et ces soutiens, ces aides sociales à l'enseignement privé. Je l'ai dit, ils sont contre la sécurité, ils sont contre un certain nombre de valeurs de liberté, et notamment de liberté d'entreprendre. Enfin, vous le savez peut-être, mais nous avons tissé un formidable partenariat avec la région de Lisbonne. La région, bizarrement, n'avait pas de partenariat international avec le Portugal quand je suis arrivée.
Il y avait, entre Paris et Lisbonne, il y avait déjà des accords.
Absolument. Entre Paris et la ville de Lisbonne, il y avait des accords.
Entre la région
et la région de Lisbonne, il n'y avait rien, alors qu'on avait des accords avec, la région de Berlin ou avec la région de Pékin. Mais on n'avait pas de relation avec le Portugal. C'était une faute. C'était une faute. Donc, nous avons signé un très beau partenariat avec la région de Lisbonne. Nous échangeons maintenant nos start-up et nos entrepreneurs et nous travaillons avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-portugaise pour aider les entrepreneurs portugais qui veulent venir créer des emplois en Île-de-France. J'ajoute qu'avec Emmanuel de Marcy-Mota, que vous connaissez, nous travaillons
avec directeur du théâtre de la ville.
Absolument, et du festival d'automne que la région aide. Nous travaillons
à festival France, Portugal, saison croisée l'année prochaine.
Exactement, vous m'enlevez les mots. En fait, l'année prochaine, en 2022, nous avons la saison croisée France-Portugal, la saison culturelle croisée. Et avec Emmanuel de Marcy-Mota, nous avons travaillé ensemble pour que la région soit un grand partenaire, un grand mécène de cette saison croisée qui va être un formidable moment pour resserrer les liens entre la France, et le Portugal, entre l'île de France et le Portugal.
Est-ce que les Portugais qui résident en Île-de-France, est-ce qu'ils jouent un rôle assez important dans la région Île-de-France, autant que citoyens, entrepreneurs, etc.?
Alors, c'est vrai que dans mon dernier mandat, en 2015, il y avait encore peu de franciliens originaires du Portugal qui avaient pris des responsabilités dans les mairies, dans les communes. Il y avait peu de personnalités portugaises luso-descendantes. Eh bien, dans ce mandat, cette année, je m'aperçois que les descendants de Portugais ont décidé de prendre leurs responsabilités citoyennes, de jouer un rôle beaucoup plus actif dans la vie de leur région. Et du coup, eh bien, je m'aperçois que j'ai dans ma liste 5 franciliens luso-descendants qui ont pris des responsabilités éminentes dans leur ville et qui seront élus si je gagne la région Île-de-France. Je pense à Sandrine dos Santos à Poissy, je pense à Geoffrey Carvalino à Pantin, Angela Avon dos Santos à Chel ou à Vasco Coelho à Choisy-le-Roi, il m'en manque un, et Julien Garcia, le maire de
Félicitations pour l'accent. C'est très correct comme accent portugais.
Écoutez, je n'ai pas encore fait qui ose.
Coelho.
Mais un petit moment, je me mettrai parce que j'aime beaucoup le Portugal.
Je l'ai déjà rencontré dans des événements portugais, notamment culturels et économiques.
Je crois que nous
êtes attaché au portugais de la région de Paris, je suis sûr.
Entrepreneur, vous m'avez posé une dernière question, mais c'est très important. Les entrepreneurs portugais vont jouer un rôle clé dans la relance. Et vous le savez, nous avons le plan de relance le plus ambitieux de France. Or, nous avons aidé énormément les TPE, PME pendant la crise.
C'est un peu naturel aussi, parce que c'est la plus importante région de France et la plus riche aussi.
Oui, mais moi, j'ai maîtrisé ma dette. Et c'est pour ça que j'ai pu faire un très beau plan de relance, parce que j'ai géré la région en bonne mère de famille, j'ai fait beaucoup d'économies, et quand la crise est arrivée, eh bien, j'avais des réserves. Donc, je fais le plan de relance sans augmenter la dette, donc sans augmenter bientôt les impôts, ce qui n'est peut-être pas la même chose que l'État français, qui, lui, a fait le quoi qu'il en coûte, mais a augmenté beaucoup sa dette et donc augmentera peut-être un jour les impôts. Moi, non. Pas d'augmentation d'impôts dans le prochain mandat, pas d'augmentation de dette, mais des aides aux entreprises. J'ai aidé 470 000 entreprises pendant la crise, la région, et nous allons annuler la dette Covid pour 7 000 TPE, PME, parce que nous pensons qu'il ne faut pas les laisser devant un mur de dette. Donc, toutes les TPE, PME qui ont bénéficié du fonds résilience régional verront leur dette annulée. Et nous continuerons d'aider puissamment les entrepreneurs avec un fonds d'investissement qui pourra investir en capital. Et je pense notamment dans les entreprises qui aujourd'hui sont les plus fragilisées, les entreprises de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Parce qu'on sait bien que cet été, les touristes ne vont pas revenir. On a été confinés. Ils vont préférer aller à la campagne, à la montagne, à la mer. Donc, on va encore avoir une année très difficile touristique. C'est pour ça que je veux être aux côtés des entrepreneurs. Et puis, par ailleurs, j'investirai énormément dans les projets de construction, de rénovation des lycées avec le plan de relance. Et tous ces projets, évidemment, c'est de l'emploi pour tous les secteurs qui recrutent en Île-de-France.
Revenons au régional, si vous voulez bien. Est-ce que ça vous a surpris, l'échec au premier tour du parti du président Macron et de celui de Marine Le Pen?
Alors, sur le Rassemblement national, je n'ai pas été surprise, enfin, j'ai été surprise de l'ampleur de son recul, mais je n'ai pas été surprise parce que je pense que le Rassemblement national en Île-de-France, il a perdu la bataille de la crédibilité parce qu'il n'a pas voté le bouclier de sécurité qui me permet d'aider les commissariats, les gendarmes, les polices municipales, la vidéoprotection. Il ne l'a pas voté. Et il a voté contre la charte de la laïcité qui me permet de lutter contre la radicalisation islamiste, qui m'a permis d'aller dans les clubs sportifs parce qu'on avait des signaux faibles de prosélytisme, de radicalisation dans les clubs sportifs. Et donc, j'ai pu, grâce à la charte de la laïcité, imposer aux clubs sportifs de respecter les valeurs de la République, d'ouvrir des sections féminines. Donc, vous voyez, le Rassemblement national, il a fait le choix de l'insécurité. Il l'a fait deux fois parce qu'il prospère sur les problèmes. Quant au parti du président de la République, mais en réalité, je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait une liste contre moi. Je ne comprends pas, toujours pas pourquoi ils maintiennent une liste contre moi. Parce que sur les sujets économiques, je suis un partenaire. Sur les sujets de la crise Covid, j'ai été un partenaire. Alors oui, je suis un partenaire exigeant. Quand ils enlèvent des policiers sur le réseau de transport, je leur dis « c'est pas bien ». Quand ils ne veulent pas renflouer Île-de-France Mobilité, je leur dis « c'est pas bien ». Quand ils ne veulent pas déclarer l'Île-de-France région sinistrée touristique, je leur dis « c'est pas bien ». Les Franciliens, ils ont besoin d'une présidente comme moi, une présidente libre qui peut dire oui au gouvernement quand c'est important, mais qui peut dire non au gouvernement quand c'est important aussi.
Madame, nous arrivons à la fin de cette interview et je trouve que vous avez fait bien le tour des sujets. J'ai cru comprendre que vous êtes un peu pas très optimiste sur le résultat final. C'est ce que j'ai bien compris, que vous pensez que vous pouvez être battu dimanche prochain au deuxième tour.
Non, je pense que nous allons gagner. Je pense que nous allons gagner parce que je pense qu'il y a en Île-de-France beaucoup de républicains sincères et que les républicains sincères, ils ne veulent pas donner les clés de la région à l'alliance des faux écologistes et des vrais extrême-gauche. Je sais que ces franciliens-là vont aller voter et vont se réveiller. Simplement, vous savez, même quand on est favori dans les sondages, même quand les sondages disent que vous allez gagner, il y a un moment important, c'est le moment où on va voter et il ne faut pas s'abstenir. À Bordeaux, en 2020, au municipal, Nicolas Florian, qui est mon ami, qui était le maire de Bordeaux, le maire de droite, il était 9 points devant dans les sondages, 9 points devant le vendredi. Eh bien, les Bordelais, le week-end, ils ne sont pas allés voter parce qu'ils ont dit « c'est gagné, c'est pas la peine d'aller voter ». Alors moi, je ne veux pas qu'on dise « c'est gagné, pas la peine d'aller voter » parce que les Bordelais, le lundi, ils se sont retrouvés avec un maire vert comme M. Bayou, qui maintenant est en train de saccager la ville de Bordeaux et qui est même contre les sapins de Noël parce qu'il trouve que c'est pas bien de faire des sapins de Noël alors que tout le monde sait qu'on coupe du bois pour faire des constructions écologiques en Île-de-France et que c'est ça, la vraie écologie. Alors, il ne faut pas avoir de mauvaises surprises. Il ne faut pas voter pour les faux écologistes. Il faut voter pour les vrais écologistes, ceux qui construisent avec du bois.
Une dernière question par rapport aux sondages et aux études et aux projections. Il y a beaucoup de gens qui pensent que vous allez gagner et par beaucoup de voix de différence et que vous serez même une candidate aux élections présidentielles de 2022. Que dites-vous ?
Mais je sais que c'est ce qu'on dit, mais ce qui est important, c'est pas ça, parce que c'est pas la question que je me pose. C'est quelle région en Île-de-France, les Franciliens veulent. Quelle région ils veulent ? Est-ce qu'ils veulent passer la main à M. Bayou ? Ou est-ce qu'ils veulent mon projet ? Mon projet, c'est l'écologie des résultats. C'est plus aucun bus diesel dans la région. C'est des véligos en location longue durée parce que Vélib à Paris, ça n'a pas marché. C'est des énergies renouvelables. C'est beaucoup plus de constructions et des constructions écologiques. C'est ça mon projet, c'est l'écologie des résultats et c'est celui de l'égalité des chances. Parce que quand j'ai donné des ordinateurs et des manuels scolaires gratuits à tous les lycéens d'Île-de-France, eh bien, Monsieur Bayou et les amis de Monsieur Mélenchon, ils n'étaient pas d'accord, ils ont voté contre. Alors, si vous voulez, l'égalité des chances. Et puis, dernière différence avec Monsieur Bayou, moi, je suis pour le travail. Lui, il est pour l'assistanat. Monsieur Bayou, comme M. Saint-Martin de LREM, ils veulent le RSA jeune. Ils veulent le RSA jeune. Ce serait dramatique pour tous les jeunes d'Île-de-France. Moi, je propose le revenu jeune actif. C'est un revenu qu'on donnera à tous les jeunes qui accepteront de se former dans les métiers qu'ils recrutent parce qu'il y a de l'emploi, il y a de l'embauche en Île-de-France. Simplement, il n'y a pas les jeunes parce qu'on ne les amène pas. Moi, je suis, je vous l'ai dit, une mère de famille. Donc, ce que je veux pour les jeunes d'Île-de-France, c'est ce que je veux pour mes propres enfants. C'est du boulot.
Donc, à 2 jours des élections régionales, ce que vous dites, c'est aller voter.
Ni abstention, ni dispersion sur des petites listes. Ce sera Julien Bayou ou moi, et il faut choisir dimanche.
Aller voter, c'est votre appel.
Absolument. Soyez maître de votre destin. C'est vos transports, c'est vos villes. Et c'est la cohésion de l'Île-de-France qui en dépend.
Merci, Madame Pécresse. Bonne fin de campagne et à très bientôt, j'espère, sur les ondes
Merci.
de Radio Alpha.
Obrigado, Radio Alpha.
Obrigado, nós. Et on poursuit avec le deuxième tour, la campagne pour le deuxième tour des élections régionales et départementales en France. J'ai ici avec moi, dans le studio de Radio Alpha, Metine Yavuz. Il est en studio, je l'ai dit. Il est maire de Valenton et candidat au départemental de Val-de-Marne. Monsieur Yavuz, on peut se tutoyer parce qu'on se tutoie normalement.
Avec plaisir, Daniel.
Est-ce que tu penses que Mme Pécresse, qu'on vient d'entendre, va être élue présidente de la région? Parce qu'elle a l'air d'en douter un peu.
Je pense, mais bien évidemment, elle est prudente, elle a raison, parce que, vous savez, cette abstention qu'on a pu connaître au premier tour, si ça se reproduit au deuxième tour, effectivement, on peut avoir ce risque. Mais je n'ai pas de doute dans le sens où les Franciliens connaissent bien Valérie Pécresse, et pour moi, c'est une bonne présidente. Et je pense
elle a un bon bilan, selon toi.
Elle a un très bon bilan, et ça, je peux vous le confirmer, parce que j'ai pu constater durant les 5 ans passés, 6 ans passés, donc depuis 2015, et bah, en fait, elle a tenu sa promesse pour la bonne gestion de la région, pour, on va dire, d'améliorer la vie des Franciliens. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, quelques tendances politiques que soient les maires, nous avons senti l'aide de la région, surtout dans cette période de crise sanitaire où elle a été vraiment aux côtés des collectivités.
Est-ce que la région, parce qu'on a eu d'autres candidats ici, et je rappelle que toi, Yavuz, tu es candidat aussi au départemental, on a eu d'autres candidats en disant que la région n'a pas trop appuyé les régions pendant la crise sanitaire.
Tu veux dire les collectivités, enfin les mairies.
Des maires, oui, des collectivités, oui.
Notamment
le chef de liste Valmont.
Je peux te le dire que moi, je suis maire depuis un an. Justement, je suis arrivé à la tête de la ville de Valenton au moment de la crise sanitaire. Et c'est plus que jamais, on a senti la présence de la région dans notre quotidien. Et je peux vous dire qu'elle a même agi mieux que l'État des fois, parce que l'État avait bien évidemment des discours dans ce sens-là, mais elle était dans l'action. Et aujourd'hui, je côtoie beaucoup de maires qui ne sont pas de même tendance politique que nous et qui confirment également qui ont senti la présence de la région, surtout dans cette année difficile qu'on vient de passer.
Metine Yavuz, tu es candidat au départemental en Val-de-Marne. Quelles sont les perspectives pour votre liste gagnée? Parce que vous avez en face un historique, Christian Favier, qui est le président du département depuis 20 ans.
Oui, 20 ans, et le département depuis 45 ans entre les mains des communistes de Val-de-Marne. Et je suis bien sûr candidat à ma succession, c'est-à-dire que moi je suis candidat sortant, donc je suis déjà conseiller départemental
du
canton de Villeneuve-Saint-Georges, Valenton et de Limeil-Brévannes, en binôme avec Madame Françoise Lecouffle, maire de Limeil-Brévannes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de changer la politique dans ce département. Nous avons notre groupe aujourd'hui qui se présente contre la gauche extrême du Val-de-Marne. Nous souhaitons vraiment améliorer encore une fois le quotidien des Val-de-Marnais, parce que on a senti, quand vous avez la majorité départementale à vos côtés, et ben je peux vous dire que sur notre territoire, on peut effectivement faire des projets, et ce que aujourd'hui notre territoire vraiment a besoin, parce que nous sommes dans un territoire très fragile, comme Valenton, Villeneuve-Saint-Georges.
Votre liste, je le rappelle, est de droite, LR.
Oui, centre, UDI, effectivement, on a une alliance de LR, libre.
Et vous croyez sérieusement que vous pouvez gagner?
Écoutez, encore une fois, faut pas croire au sondage. Moi, je suis totalement d'accord, comme Valérie Pécresse l'a répété.
Vous êtes arrivé devant.
Voilà, nous sommes bien sûr largement devant, mais cela ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que encore une fois, faut aller jusqu'au bout de notre engagement, c'est-à-dire de finir ce deuxième tour dans les meilleures conditions, et que j'appelle bien évidemment tous les habitants de notre territoire à se déplacer. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, les choses peuvent changer et que faut pas que, je veux dire, qu'on s'imagine que c'est déjà gagné d'avance. Et moi, je suis totalement d'accord, comme Valérie, qu'il faut absolument aller dans les urnes pour justement choisir notre avenir et d'inscrire son destin.
Martine, à vous, tu es maire de Valenton depuis quelques années seulement.
Non, à peine un an. Au 4 juillet, j'étais maire. 4 juillet 2020, j'étais élu maire de Valenton, donc ça fait à peine un an.
Oui, je me rappelle, tu es venu ici pour la campagne.
Exactement.
Ici, c'est moi qui t'ai fait l'interview.
Ouais, je me rappelle, c'est vrai, exactement ça.
Et comment ça se passe depuis? Non, c'est pas beaucoup pour faire un bilan, mais enfin, à Valenton, comment ça se passe à Valenton?
En fait, on se rend compte que c'est vrai qu'une année, c'est pas, on peut pas faire un bilan. Mais quand même, les Valentinois ont senti le changement. On sentit le changement. La preuve, aujourd'hui, s'ils nous ont mis aussi dans cette élection, on va dire, en tête.
Je rappelle en parenthèse que la radio Alpha est sur Valenton.
Et en plus, donc vous êtes sur notre territoire. Exactement. Et on est très content de vous avoir sur notre territoire. Mais c'est vrai qu'on a été élu dans un contexte un peu compliqué. Avec la Covid, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on a pu avoir plusieurs confinements, qu'on n'a pas pu mettre en place tous nos projets que nous souhaitions.
Oui, c'était une année très, très difficile.
Voilà, très difficile.
Pour tout le monde.
Malgré tout, nous avons commencé à, on va dire, organiser notre début de programme, c'est-à-dire on avait promis certaines choses aux Valentonais, notamment la police municipale que j'avais promis qu'on allait mettre en place de suite dès notre arrivée. Effectivement, on a maintenant notre chef de la police municipale. Nous allons, grâce à cette équipe de la police municipale, nous allons déployer pas mal de vidéoprotection sur notre commune. Ça, c'était une promesse que j'avais faite aux Valentonais. Donc ensuite, on a changé pas mal de choses aussi sur la propreté de la ville. Nous avons déjà mis les équipes sur le terrain. Nous avons ce retour par les Valentonais qui nous disent bien qu'effectivement la ville commence à un peu changer, notamment sur la propreté, etc. Donc il y a plusieurs projets qu'on a engagés, notamment un gros projet qui concerne la ville de Valenton, c'est le projet de l'ANRU, donc rénovation urbaine qu'on a mis en place de notre arrivée, qui est en cours. Donc j'espère pouvoir signer le contrat national d'engagement avec l'ANRU avant la fin de l'année pour qu'on puisse enfin redonner de la vie, par exemple, le quartier de la UTS qui en attend depuis des années.
Donc on se donne rendez-vous pour les prochaines municipales pour faire un bilan.
Oui, je pense qu'il faut un peu de temps.
Et on espère que le Covid nous laisse en paix et qu'il laisse aussi travailler les maires.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça joue, et d'ailleurs ça joue dans notre quotidien. Aujourd'hui, on a pu annuler beaucoup de festivités, beaucoup d'activités, que ce soit activités sportives ou culturelles, parce que justement, on n'avait pas de visibilité sur l'évolution du virus. Voilà.
Martine, il y a vous un message de toi-même, du maire de Valenton, pour les Portugais du Val-de-Marne?
Ben, je vous le dis sincèrement, le département a son importance dans notre quotidien.
Parce
le département aujourd'hui.
Je rappelle que le Val-de-Marne, c'est presque un département.
La communauté portugaise est très bien implantée sur notre département et on est très fiers de les avoir à nos côtés. D'ailleurs, moi, dans mon équipe, j'ai aussi des élus d'origine portugaise. Donc, au contraire, c'est dans l'intérêt justement de cette cohabitation, quelles que soient les origines des Val-de-Marnais. Nous avons besoin d'avoir un département dynamique, un département qui ne soutient pas seulement l'assistanat, mais qui soutient surtout les personnes vers la réussite, l'évolution des uns et des autres. Je pense que les Portugais en connaissent quelque chose, c'est que c'est des gens qui sont souvent avec la valeur de travail, qui sont un peu leur base, si j'ose dire le mot. Donc, je pense que dans le Val-de-Marne, nous avons besoin d'une équipe dynamique et nous, notre groupe, représente une équipe dynamique et que ce changement, on en a besoin dans le Val-de-Marne.
Merci beaucoup, Martine, à vous pour cette interview et à très bientôt donc à la radio Alpha, étant donné même qu'on est voisins, raison de ne pas se voir souvent.
Oui, c'est clair. Daniel, merci beaucoup en tout cas à Radio Alpha de m'avoir invité et je souhaite une très bonne journée à tous les Portugais du Val-de-Marne, même au-delà.
Merci et à continuation, un muito bom dia para todos os nossos ouvintes.